nos lieux enchantés, une histoire mariant causerie, chansons et patrimoine.
Réalisé par la Compagnie des Histoires en Musique, en partenariat avec la communauté de communes du Pays Mornantais.
Quand Monique a été à la retraite, je lui ai dit qu'on ferait parler les vieilles pierres.
L'intérieur du castrum, c'est devenu en quelque sorte le coffre-fort du village.
Et ces eaux, elles avaient des propriétés miraculeuses.
Je ne crois pas que ce soit lourde.
Boire de l'eau, c'était déjà un miracle.
Au bout d'un moment, un fracas épouvantable, de la poussière de partout, le curé qui ne retrouve plus la porte, si bien que je ne savais plus à quel saint se vouer pour arriver à réparer cette église.
Régulièrement, tous les mois à peu près, je publie une vieille carte postale avec une vieille photo d'Orléna et deux mots à côté. Eh bien, c'est chaque fois la publication qui a le plus de likes.
Et j'ai pris le virus. De temps en temps, le virus s'endort, mais c'est fait pour la vie. J'ai des crises souvent où je reparle dans les recherches parce que je ne peux plus m'en passer.
À deux pas de Lyon, le pays mornantais. Un plateau, des coteaux, un pays dans le pays.
Je suis Romain Lateltin, enfant du pays.
Et moi, je suis Théophile Hardy, enfant fraîchement adopté. Nous avons une mission. Explorer le pays mornantais, sa culture, son patrimoine, ses visages, ses paysages, pour trouver ce qui relie ces 30 000 âmes.
Nous allons causer avec les gardiens des histoires et légendes, ayant traversé le territoire et les années. Nous allons sillonner le pays pour capter sa vibration et tenter d'écrire des chansons qui racontent son histoire en musique.
Notre cap, le festival itinérant Nos lieux enchantés, qui invitera des artistes à chanter leurs propres chansons et celles du lieu décor de leur spectacle. Pour vivre notre pays mornantais avec nos cinq sens.
Pour explorer ses couplets, traverser ses ponts et entonner ses refrains en chœur.
Pour en chanter nos lieux.
Bonjour, nous voilà devant les magnifiques remparts d'Orléna. Nous passons une haute porte ogivale et nous découvrons une place intérieure verdoyante aux maisons de pierre dominées par une imposante église. Monique, Josette et Jean-Michel nous attendent sur un des bancs de la petite terrasse adossée à l'église surplombant la place. Il règne une atmosphère à la fois festive et spirituelle. Nous avons hâte de les entendre.
Merci de nous accueillir. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Monique, donc, j'ai été institutrice à Orléna. C'est comme ça que je suis arrivée à Orléna. J'ai enseigné pendant tant de temps. Je suis à la retraite. Je suis mariée avec quelqu'un du pays, ce qui me permet d'avoir l'impression d'avoir toujours habité. Donc, lui, il est né à Orléna, son père est né à Orléna, son grand-père est né à Orléna. J'ai l'impression d'être là depuis toujours. Enfin, je suis arrivée à 20 ans.
Jean-Michel ?
Moi, je suis, comme Monique, un vieil habitant d'Orléna. Mes parents s'y sont installés en 1952. J'avais 5 ans, si bien que j'ai vu toute l'évolution du village depuis cette époque. Et je suis cette année conseiller municipal. Donc, je peux m'occuper justement de toute l'histoire et tout ce qui est ancien Orléna, de toutes les archives.
Josette.
Je suis venue de Pierre-Bénite. J'ai fait un grand pas. Pierre-Bénite Orléna, et de ça, il y a 51 ans. Je me suis toujours intéressée au village. J'ai bien discuté avec des personnes anciennes du village. Après, quand Monique a été à la retraite, je lui ai dit qu'on ferait parler les vieilles pierres. Et c'est comme ça que nous avons commencé à faire des recherches sur Orléna.
Nous aimerions imaginer notre causerie comme une déambulation, nous rapprochant peu à peu du centre où nous sommes. En venant de Soucy-en-Jarret, sur la route du Violon, on peut s'amuser à chercher l'ancienne gare d'Orléna, l'ancienne ligne du Folle, qui, de ce que j'ai compris, venait de Fourvière. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui pourrait nous en dire un petit peu plus sur cette voie ferrée, qui pourrait avoir du sens même aujourd'hui ?
Quand on vient de Soucieux pour aller à Orléna, justement, la gare se trouve au Violon. Il y a eu là une grosse discussion. Les gens d'Orléna étaient très en colère parce que Soucieux avait eu droit à deux gares et Orléna n'en avait qu'une. Si bien que le territoire de la deuxième, qui était le plus près d'Orléna, a été déclassé. On a mis sur Orléna pour que la gare soit la gare d'Orléna. Donc cette gare a été très utile. Il y avait des ateliers, il y avait des particuliers qui faisaient du velours de soie. Et donc c'était beaucoup plus pratique d'emmener les pièces terminées à la gare plutôt que de les descendre à Lyon par le car, les sept chemins et compagnie. Le passage de la voie n'y est plus, mais le passage a été conservé. On a insisté là-dessus. Des paysans voulaient l'acheter. C'était non. On s'est dit qu'à une autre époque, on ne sait pas si un jour ou l'autre, le chemin de fer ne reviendra pas passer par là. Ce serait assez pratique d'ailleurs. Donc on a conservé le passage, espérons que les prochains feront pareil.
Il n'est pas praticable, ni à pied, ni en vélo.
Absolument pas en vélo, non, mais il est très facile à suivre parce qu'il y a une haie tout le long qui rejoint la route de Saint-Laurent, donc la ligne qui va à Saint-Laurent.
Cette ligne, elle est de où à où?
La ligne, elle allait de Saint-Just à Mornant. Mais il était prévu qu'elle soit prolongée jusqu'à Rive-de-Gier. Mais ça n'a jamais été fait.
Très bien. Jean-Michel, des choses à rajouter?
J'ajouterais juste que les gens d'Orléans étaient un peu désavantagés par rapport aux autres communes parce que leur gare était à 2 km. De l'autre côté, à une époque, du côté des sept chemins, il y avait le tramway, mais c'était à 3 km. Donc, il y avait quand même un marché où à utiliser d'autres moyens de locomotion pour gagner les moyens de transport collectifs. Si, ce que je pourrais ajouter, c'est que le hameau du Violon est un hameau chargé d'histoire, puisque en plus de la gare, au 1er siècle après Jésus-Christ, dans un vallon d'un endroit qui s'appelle les Pierres Blanches, on a une demi-arche d'aqueduc qui était là. En réalité, pour enjamber le Merdançon, l'aqueduc devait faire une quarantaine de mètres sur 8 mètres de haut à cet endroit pour passer par-dessus le ruisseau. Il ne nous reste plus qu'une demi-arche, mais c'est un endroit très agréable et je pense que dans les années qui viennent, on va réussir à refaire une promenade autour de cette demi-arche qui est perdue dans la nature, dans un très joli coin. Et les terrains alentours, enfin l'arche, cette demi-arche vient d'être inscrite au monument historique, donc on était très contents.
Merci. Josette, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport au métier?
Par rapport au métier, Monique a parlé des veloutiers. Effectivement, ici, la rue qui arrive des sept chemins s'appelle Route des Veloutiers. Et elle porte bien son nom parce que les maisons étaient suffisamment hautes, les appartements étaient suffisamment hauts. Et dans beaucoup, beaucoup de maisons, il y avait des métiers à tisser. Par exemple, dans la maison où il y a le salon de coiffure actuellement, elle a été construite exprès pour avoir des métiers à tisser. 3 étages et il y a quelques années, l'immeuble a été refait et on a monté 4 étages. Vous dire si les pièces étaient hautes. Dans beaucoup de maisons, donc il y avait des métiers à tisser et ça s'est fait jusqu'en 1914 à peu près.
C'est ce qu'on voilà. Retrouve aussi dans les appartements des Canuts, Croix-Roussiens. Je crois que les appartements des Canuts, c'était plutôt la soie. Et là, c'est vraiment...
Là, c'était du velours.
Du velours. C'était du la velours. Spécialité d'Orléana et un peu plus largement du pays.
Et les gens descendaient leur velours à Lyon.
Avec, entre autres, le chemin de fer.
Le chemin de fer, ou alors ils prenaient le tram aux sept chemins. Et quand il y a eu une usine de velours à Orléana, mais ça n'a pas duré très longtemps. Après, les jeunes filles allaient travailler à Soucieux, en vélo. Et quand il y avait de la neige, à pied. Et l'hiver de 1928 et celui de 1929, la neige était tellement épaisse sur la route qu'elle n'était pas dégagée. Donc, elles se rendaient à pied pour travailler.
Et évidemment, on ne peut pas ne pas parler d'Orléana sans parler de l'histoire avec l'eau. Quand on prend la route du Violon, on peut voir sur la droite ce fameux Hôtel des Eaux. C'est vraiment un lieu assez improbable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Au XVIIIe siècle, le propriétaire d'un terrain, en se promenant avec des amis, il a montré une source à un ami qui était Monsieur Bubaton. Il était démonstrateur royal adjoint du collège et de chirurgie de Lyon. Et alors, il lui a demandé d'analyser les eaux. Et ces eaux, elles étaient ferrugineuses. Elles avaient des propriétés miraculeuses.
Donc par une visite BRGM a fait, parce qu'il y a eu toute une histoire où l'accès a été supprimé bêtement, le propriétaire d'Hôtel des Eaux n'a rien trouvé de mieux que d'y mettre un jeu de boules sur le passage. La commune avait établi un petit ponçon pour rejoindre la source, mais ce n'était pas très facile. Donc on a fait venir le BRGM pour savoir si vraiment on ne pouvait pas récupérer ce chemin. Ça n'a pas été possible pour un tas de raisons administratives. Mais quand on a fait faire ces analyses, vraiment au milligramme près, on a trouvé exactement les mêmes résultats. Alors que là, ça a été fait à peu près 20 ans. C'est récent, hein. Et les autres qui avaient été faites au temps de M. Bubaton et tout ça, c'était en grains. Et si on faisait le transfert du grain en grammes, c'est exactement les mêmes chiffres. Donc c'est assez étonnant. Alors là-dedans, il ne faut pas oublier quelqu'un qui a été très efficace, c'est le curé Romier, ce cher Nicolas, qui a été vraiment une figure d'Orléans, à tout point de vue. Il a lui aussi beaucoup insisté pour que cette eau soit analysée, et puis mettre en service pour que les gens puissent se soigner. Et il s'arrangeait même avant, parce que le bâtiment a été construit après, bien sûr, il n'existait pas à ce moment-là. Et la vraie source est plus haut, d'ailleurs. Puis ensuite, ils avaient mis une canalisation, mais c'était plus facile d'accès, enfin, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, vous savez.
Mais ils l'ont canalisé parce que souvent avec les crues du Merdançon, ça se perdait, les eaux, elles se mélangeaient.
Non, elles se sont jamais mélangées, je pense pas. Parce qu'on a mis en bas de Grand But, on avait mis des colorants, ça se mélange absolument pas.
Il y a débat là, en tout cas entre Josette et Monique.
Non, mais on est d'accord. Hein.
On va donner la parole à Jean-Michel parce qu'on a commencé à lire un peu tes travaux de témoignages et notamment plein d'anecdotes sur cette période des eaux. Puis vous toucherez aussi un mot de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en reste.
Ce qu'on peut dire, c'est que la période de succès de la source a été vraiment très courte. C'était fin 18e et une partie du 19e. Et puis ensuite, il n'y a plus que les gens du village qui venaient. Mais au début, après M. Bubaton, il y a eu Lannoy qui a fait des analyses qui sont montées jusqu'à Paris. Et il y a quand même eu un privilège donné par le roi pour que des gardes soient mi-armés, soient mis en place parce qu'il y avait trop d'affluence à la source d'Orléans. Il est paru aussi quelque chose qui disait qu'il fallait bien faire attention à ce qui est l'étiquette sur les bouteilles eau d'Orléans parce qu'il y avait des contrefaçons. On a souvent comparé les eaux d'Orléans et Orléans à Charbonnières, puis simplement Charbonnières a continué, Orléans ça s'est arrêté un moment. Mais alors Orléans, moi je m'interrogeais dans les travaux que j'avais faits, je me disais est-ce que c'était vraiment une source thermale ou est-ce que c'était miraculeux comme à Lourdes, parce qu'il y avait toute une série de témoignages recueillis par justement ce fameux curé Romy. Alors c'est un personnage dont on pourra effectivement reparler. Il aidait à loger les gens, puisque l'hôtel des eaux n'existait pas à cette époque. Il a recueilli des témoignages pour la promotion. Alors j'en ai quelques-uns. Par exemple, de Monsieur Garin, de Saint-Laurent-d'Agny. Ma fille, âgée de 3 ans, avait une humeur qui l'avait rendue tout à fait aveugle. Les chirurgiens l'avaient soignée inutilement pendant 4 mois. J'envoyais chercher des eaux d'Orléans. Je lui en fis boire et lui en lavais les yeux. Le même jour, elle fut plus tranquille et 4 jours après, elle recouvra la vue. C'est assez extraordinaire. Mes deux fils prirent la fièvre en chassant dans les marais. Le cadet, plus faible, en périt. L'aîné, après quelques préparations, fut conduit à Orléans. J'allais le voir la première quinzaine de son séjour. Donc, s'il pouvait, les gens restaient un certain temps. Je le trouvais sans fièvre. Il y demeura 1 mois. Après ce temps, il revint en parfaite santé. Donc, alors que l'autre est mort. J'en donne un dernier. Mon épouse avait épuisé. Alors, ce monsieur était de Lyon, hein, monsieur voisin de Lyon. Les gens sont identifiés quand même. Mon épouse ayant épuisé tous les recours de la médecine sans succès, elle a fait usage pendant 21 jours des eaux d'Orléans. Elle est revenue radicalement guérie. Je leur donne l'existence d'une épouse chérie. C'est un notaire à Saint-Symphorien-sur-Coise. Et comme ça, il y en a plein. Quoi. C'est là qu'on s'interroge, parce qu'il n'y a pas de spécification spéciale. Elle était conseillée absolument pour tout, l'eau d'Orléans. Hein. Genre, ben moi j'ai la liste là, la liste des maladies. Voici, en effet, dans quel cas M. Lannoy conseille aux patients. Elles conviennent parfaitement aux maladies affectées de spasmes, convulsions, vapeurs, affections hypochondriaques et en général dans les maladies nerveuses. Elles ont beaucoup d'efficacité contre les maladies de la peau de plusieurs genres. Les dartes, les plus rebelles, ont été guéries la plupart sans retour. Elles s'opposent aux engagements sourds qui, le plus souvent, causent des palpitations, les vertiges, les maux de tête. Elles enlèvent les embarras et obstructions des viscères, etc. Mais ils faisaient la promotion de leur source. On peut quand même douter un petit peu d'une pareille efficacité comme...
C'était le marketing de l'époque, hein, certainement.
Il semblerait, oui.
Nous, on a appris il n'y a pas longtemps, grâce à toi Jean-Michel, que Orléans s'appelait du coup Orléans les eaux. Depuis quand ils ont enlevé les eaux?
Quand je suis arrivé à Orléans, donc je suis arrivé en 57, c'était encore Orléans les eaux. C'était marqué vers la poste. Alors, je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Jean-Michel, là, par rapport à ce qu'elle guérissait. Donc, on disait qu'elle guérissait pas mal des maladies du foie, des maladies digestives et tout ça. Eh bien, c'est vrai, mais ce que je peux dire aussi, c'est que s'il guérissait certaines maladies digestives, c'était pas vraiment un hasard, parce que le régime était d'une sévérité absolue. Les gens qui avaient l'habitude de faire des bons repas, on peut dire que rien que la diète, on dira, suffisait déjà à les guérir à moitié.
Déjà boire de l'eau, c'était déjà un miracle.
Alors pour boire l'eau, c'était très compliqué. Il y avait un système très précis. Il fallait d'abord la boire froide, après on pouvait la chauffer. On avait droit le premier jour qu'à un verre, et petit à petit on augmentait les doses. Et si on parle de 3 semaines, c'est le temps d'une cure. C'était bien la même eau que Charbonnières. Il a été question à un moment que le Charbonnières lyonnais, ce soit Orléans-les-Eaux et non pas Charbonnières-des-Bains. Malheureusement, le propriétaire des terrains de Charbonnières, qui était un des comtes de Lacroix-Laval, qui a pourtant été maire d'Orléans, enfin il y en a eu un qui a été maire d'Orléans, était propriétaire de ce terrain. Alors naturellement, ça s'est fait là-bas. L'eau d'Orléans était plus intéressante en ce sens qu'elle coulait, alors qu'à Charbonnières, c'était surtout des boues. Mais bon, cette eau, elle s'est perdue, surtout que personne n'aille boire de cette eau, parce qu'elle est beaucoup trop chargée en minéraux curatifs, on dira quand même. Hein. Donc elle est tout à fait impropre à la consommation. Et pour ça, comme la canalisation qui amenait l'eau était en terre cuite, mais on arrivera bien un jour à récupérer et refaire la canalisation.
Il y a plein de choses intéressantes dans ce que vous dites là, parce que la première chose, c'est que cette eau paraissait plus pure, peut-être, que celle de Charbonnières, dans ce que vous disiez, parce que c'était des boues d'un côté.
C'était plus de l'eau.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa richesse, on va dire, de ses ressources, et que, comme disait Romain, il y a quand même pas mal de promos dans cette histoire, il y a quand même pas mal de rapports de force, c'est tellement toujours vrai, c'est intéressant de voir ça.
Je crois pas que ce soit lourde.
Ah, bon.
Ça marchait quand même, quoi.
J'ai retrouvé là ce que tu disais du régime, et c'est vrai que le régime en lui-même suffisait à améliorer l'état des gens. J'en prends juste une partie. Le dîner doit être composé d'aliments sains, de digestion facile. Le souper sera pris de bonne heure et léger, à proscrire vin pur, café, liqueur, ragoût, pâtes, fromage, cochon, salé, salade. À conseiller poisson, soupe, herbage, fruits. Donc il est vrai que le régime devait sûrement servir à améliorer la santé.
Nous, on a découvert aussi qu'il y avait une chanson sur cette fontaine, écrite par un ancêtre troubadour, puisque nous-mêmes, nous sommes auteurs de chansons. C'est un petit peu ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, parce que ce projet général de podcast pour transmettre la mémoire, faire parler les pierres, bah nous, on aimerait aussi bien les faire chanter, ces pierres. Qui c'est qui peut nous parler de cette chanson? Cette chanson, on peut l'entendre quelque part, ou nous n'avons que les mots?
On a l'air, moi j'ai des enregistrements par des anciens d'Orléans, il y avait plusieurs personnes qui étaient capables de la chanter, même encore aujourd'hui je crois qu'on pourrait trouver quelqu'un capable de la chanter. Et j'ai l'enregistrement, j'espérais que la chorale d'Orléans qui s'appelle Chante Source la chanterait un jour. Pour le moment, le chef de chœur ne s'est pas décidé pour différentes raisons. Elle était à l'unisson. Il aurait voulu plusieurs voix. Alors, je l'ai fait mettre à deux voix, déjà. Et elle existe. Et donc, on a tous les couplets.
Tu peux nous en lire un, par exemple? Le premier, allez. Juste parce que nous, c'est intéressant. On voit une différence, si tu veux, entre comment on écrit nos chansons aujourd'hui, où c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus condensé, dense. On est dans une autre époque. Alors, dis-nous un petit couplet.
Permet pour varier mes chants ou ma sublime république que j'absente à la politique pour cueillir une fleur au champ. Tour à tour, poète ou soldat, je voue à ta simple manière ma tête, mon cœur et mes bras, ornés d'une fleur printanière, ma boutonnière. Je prends aujourd'hui pour bannière la fontaine d'Orléans, la fontaine d'Orléans. Et ça se termine chaque fois, chaque couplet se termine par la fontaine d'Orléans. Et il y en a sept, je crois.
C'est le refrain, en fait.
Oui, ça sert de refrain. Ben maintenant, Orléans-les-Eaux, c'est peut-être un petit peu loin. On est plutôt classé par rapport au vin. Au coteau du Lyonnais, avec plein de vignes qui s'étendent pour les coteaux du Lyonnais un petit peu partout.
Josette, peut-être tu voulais rajouter quelque chose?
Donc, je voulais rajouter qu'au XVIIIe siècle, il faisait bon vivre à Orléans parce que l'air y était très salubre, l'espérance de vie plus longue que la moyenne nationale, les habitants y paraissent robustes et bien portants. La majeure partie ont les cheveux noirs, on y voit plusieurs vieillards et l'on peut soigner donc avec les eaux bienfaisantes comme en témoigne la lettre du curé Romier.
Ça c'est voilà. Une bonne promo, ça donne envie de venir. Bon, on a fait donc cette partie sur les eaux, sur la fontaine, les chansons, on a parlé un peu de l'aqueduc aussi. On se rapproche encore un peu plus du centre. Et on découvre, sur cette route du violon, en provenance de Soucieux, une première croix à l'entrée du village, vers le cimetière, indiquant une balade reliant les 21 croix jalonnant la commune. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative, et plus largement, d'Orléans, ville pieuse?
Disons, j'ai été au conseil il y a un temps. En tant qu'ancienne institutrice, naturellement, la première chose que je fais en arrivant, c'est monter un conseil municipal d'enfants. Avec Josette et puis un monsieur qui avait 80 ans à l'époque, qui nous a bien fait peur parce qu'il grimpait sur les croix, il faisait une chaleur à mourir, mais il a bien tenu le coup. Donc ça a tout été mesuré en long, en large, en travers, en hauteur. En...
Vous l'avez fait avec les enfants ?
Non, ça on l'a fait que ce monsieur et Josette et moi. Et puis ensuite, avec les enfants, on a établi un circuit. Établi le circuit le plus long possible, mais il y a une croix qui ne rentrait pas dedans. Elle valait le coup quand même, mais si on voulait y aller, il fallait absolument y aller exprès, quoi. Et puis revenir sur ses pas. C'est la croix des moissons qui se trouve sur la route de Saint-Laurent. Alors, il y avait une croix qui était tombée, c'était au Taravel. Elle avait été entreposée au Taravel. C'est un hameau qui se trouve de ce côté. La croix, par elle-même, elle était chez une demoiselle. Et cette demoiselle, qui vieillissait, qui était handicapée, elle se faisait un souci monstre. Parce qu'elle avait cette croix, elle avait peur qu'on l'accuse d'avoir volé la croix du Taravel. Donc elle nous en a parlé, puis finalement, bon, tout le monde était d'accord pour la remettre en place. Et c'est un voisin qui l'a remise en place. Alors, elle n'est pas très importante, elle était juste piquée sur un mur. Elle n'était pas sur un socle, celle-ci. Mais elle était soulagée. On ne pourrait jamais dire qu'elle avait volé la croix.
Nous, on est très sensibles aux projets qui sont co-construits, qui sont participatifs, qui impliquent aussi les citoyens et en particulier les enfants. Ça, c'est chouette. Je ne savais pas ça.
On s'est rendu compte que ces croix étaient rarement entières parce que elles se cassent au fil du temps. Les charrettes qui passent, forcément, elles sont abîmées. Et souvent, la croix par elle-même qui était en pierre au départ, on la retrouve en métal.
Une délibération du conseil municipal qui date du 19 août 1888. C'est vraiment amusant. Il s'agit de la croix de Jalloucieux. Le maire, il fait part au conseil d'une lettre d'une demoiselle au sujet d'une croix qui gêne la circulation et qui est adossée à sa propriété. Des plaintes ont été adressées à ce sujet et cette demoiselle, elle proteste disant que la croix est sa propriété et qu'elle défendra si on y touche. Monsieur le maire est d'avis d'écrire à cette demoiselle pour éviter les embarras d'un procès de la commune, pour l'inviter à laisser couper un angle de la croix, réparation qui ne pourra que l'embellir. Et cette croix, elle a été restaurée il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années à peu près.
J'avais même obtenu un prix du patrimoine pour la dame qui avait payé de ses deniers. La restauration de la croix, elle a été très bien restaurée. Elle a eu un prix du patrimoine. Elle était ravie, enchantée.
La croix, il lui manquait carrément un bras.
Alors, elle a préféré qu'on coupe un bras de la croix plutôt que de la déplacer de quelques centimètres. C'était comme ça. Peut-être que si c'était elle qui avait eu l'idée, elle l'aurait peut-être fait. Mais du moment qu'on lui imposait, c'était pas possible.
Il y avait cette opposition, parce qu'il y a plusieurs comptes rendus du conseil où il en est question, parce que cette dame affirmait que la carreau, elle lui appartenait, et donc il fallait pas y toucher, et le conseil avait fini par affirmer que non, c'était une propriété communale, quoi.
Alors on continue la balade d'Orliena, on arrive tout naturellement au centre, dans le vieil Orliena, où nous nous trouvons, tout simplement. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui nous entoure, parce que quand on est ici, dans cette cour intérieure, il y a vraiment une architecture particulière, cette église... spécial. C'est quand même vraiment typique, hein, Orliena, c'est très particulier.
Alors, quand on arrive au 11e, 12e siècle, les invasions arrivaient de tous les côtés, aussi bien les Sarrasins au sud, tous ceux qui descendaient du nord aussi, on a eu les Huns, et c'était dans tous les villages, dans toute la France, qui était encore à peine la France d'ailleurs. Mais quand même, il y avait un roi et... ils ont exigé que tous les villages soient fortifiés, justement pour résister à ces hordes sauvages qui étaient vraiment... ils étaient capables de tuer les gens pour prendre leur maison. Donc tous les villages ont été fortifiés, Orléans comme les autres bien sûr. Mais on a eu une grande chance, c'est que avant la Révolution, ça appartenait à Aîné. Hein. Il faut dire que la plupart des seigneurs à l'époque, c'était des gens de religion. C'était les seuls qui avaient un peu d'argent et qui savaient le faire fructifier. Ils ont fortifié justement pour être à couvert en cas d'attaque. Au tout début de la construction, il n'y avait pratiquement personne à l'intérieur. Il y avait un moine ou deux, non, deux ou trois on dira, parce que dès qu'il n'en est resté plus qu'un, il a été rappelé à Aîné, il n'y a plus de moine ici. Et c'était l'abbaye qui nommait les curés, par contre. Elle a gardé cet avantage pendant très longtemps. Donc je vous disais qu'on avait eu de la chance à la Révolution, parce que tout ce qui, de près ou de loin, pouvait faire penser à la noblesse, entre parenthèses les tours, ont été démolis partout. C'est pour ça qu'on est à peu près le seul village à avoir gardé autant de remparts. Et toutes les tours surtout. Trois tours, la quatrième c'était l'église.
Pourquoi ces tours sont restées à Orliena ?
Quelque temps avant la Révolution, tout avait été vendu comme les biens nationaux. Ça avait commencé quoi. Et il y a un monsieur de Saint-Étienne qui avait acheté deux tours pour ses deux fils. Et ils y habitaient. Étant donné que c'était des gens comme tout le monde, ça enlevait la noblesse de la tour et ils les ont laissés tranquilles. Et du coup, la troisième ne les a pas intéressés. Donc la troisième, elle est plus petite que les autres, ce qui est facile à comprendre parce qu'elle était en dessous de l'église. Alors l'église, elle était à cet emplacement, un peu plus à l'intérieur, en sachant qu'elle était très étroite, très haute, et qu'il y avait juste des toutes petites fenêtres à ras du toit. Entre le plafond de l'église, on dira, et puis les combles, il y avait une cage pour mettre des armes, des munitions et des provisions pour avoir de quoi se nourrir et se défendre en cas d'attaque. Donc cette église était très sombre, sachant que à cette époque, on restait debout. Pendant les messes, il n'y avait aucun siège dans les églises. Il fallait vraiment avoir du mérite pour venir à la messe, parce que, je vous dis, d'une part, il y avait très peu de lumière, debout, pas très chauffé, ça ne devait pas être facile. Contrairement à ce qu'on voit quelque part, la porte du côté ouest n'existait pas. C'était fermé absolument tout le tour. Donc on rentrait par la porte est, qui est encore surmontée de son mâchicoulis et d'un blason qu'on n'a pas pu définir, malheureusement. J'avais dit que je ne voulais pas mourir avant d'avoir trouvé, mais je crois que je serais morte avant qu'on l'ait trouvé. Bien, tant pis, hein. Savoir d'où provenait ce blason. Mais on est arrivé à la conclusion que ça devait être une pièce rapportée d'ailleurs. Ça se faisait beaucoup, ça. On trouvait un blason qui traînait, bah tiens, ça fait bien, hop, on colle. Donc, cette église, c'est un prieuré rural, c'est-à-dire que c'était en même temps fait pour les moines, leur chapelle, on dira, et en même temps pour les paroissiens, qui, pour venir à la messe, rentraient par là-bas en bas. C'était la porte ouest. Donc, il y avait des fossés tout le tour, et il y avait un portier qui ouvrait ou fermait les portes. Donc l'abbaye d'Ainay, qui avait beaucoup de possessions, faisait venir des gens régulièrement pour se rendre compte de ce qu'il y avait d'abîmé. Et c'est comme ça qu'on a la chance d'avoir beaucoup de renseignements sur ces églises. Et on s'aperçoit qu'au fil du temps, de plus en plus, elles s'abîment. Il y a des fentes, on remaille, on répare. Les termes sont amusants, mais il arrive un moment où ça devient de plus en plus difficile. Mais en même temps, l'intérieur du castrum commence à se remplir. Alors, au départ, il y a juste quelques maisons. Et c'est devenu en quelque sorte le coffre-fort du village. C'est-à-dire tout ce que les gens avaient comme objets précieux, ils pouvaient les rentrer à l'intérieur. Donc en cas d'attaque, déjà tout ça était protégé. Alors certains avaient une maison entière, d'autres n'avaient qu'un placard, et d'autres n'avaient même qu'un rayon de placard. Mais le principal, c'était que ce soit à l'abri. Autant que je sache, j'ai jamais eu besoin de se protéger. Même le prieur d'Ainay avait le droit de rentrer. Et le roi aussi, s'il passait par là, il avait le droit de rentrer. Mais les gens ne rentraient que pour aller à la messe. Là en dessous, on avait le jardin du curé. Leurs émoluments n'étaient pas assez élevés pour qu'ils puissent vraiment vivre. Donc, ils avaient leur petit jardin. Et surtout, il y avait une vigne là à l'intérieur. La communion se donnait sous la forme du vin. Et tout le monde buvait sa petite goutte. Donc, les curés en particulier, le curé Romier, que j'aime bien parce que je ne l'ai jamais connu, bien sûr. Il avait sa vigne et il était amusant parce qu'il en a planté un peu partout, des vignes. Et quand il notait tout ça, mais à l'intérieur des bulletins paroissiaux, enfin du registre, des registres paroissiaux. Donc il notait ça un peu n'importe où. Il y avait un enterrement, un baptême, et après la plantation d'une vigne. Mais ça nous rend bien service parce qu'on sait pas mal de choses grâce à lui, même le cépage qui était installé. Et puis un jour, on ne sait pas exactement quand, il y a tout le mur qui était là en dessous de l'église qui s'est effondré. C'est marqué sur un plan de 1740, où c'est marqué brèche. À ce moment-là, on risquait plus grand-chose. 1740 par rapport à 1200, 1100, ils n'ont pas remonté. Donc c'est resté ouvert comme c'était. Et puis ça s'abîmait de plus en plus. La municipalité n'avait pas d'argent. C'est pas étonnant. Et le curé n'en avait pas plus. C'est pas plus étonnant. Si bien que je ne savais plus à quel saint se vouer pour arriver à réparer cette église. Et le curé de l'époque, un dimanche après-midi, était rentré dans son église, prier la Vierge pour qu'elle trouve une solution. Au bout d'un moment, un fracas épouvantable, de la poussière de partout, le curé qui ne retrouve plus la porte, 10 mètres carrés de murs de l'église qui se sont effondrés. Alors, c'était la réponse de la Vierge. Bon, ça, enfin, non, je suis méchante quand je dis ça, parce que je ne pense pas que ce soit... Encore que, je pense que c'était la meilleure des choses à faire. Alors, en fait, on a compris pourquoi ces murs qui sont très épais, puisqu'à certains endroits, ils ont jusqu'à 1,50 m d'épaisseur. Naturellement, c'était pas tout en pierre. Donc, on faisait deux murs parallèles et puis on garnissait avec du sable, de la terre. Et ce mur qui était au midi, il était chauffé. Donc, le sable à l'intérieur s'est desséché, on peut dire. Et il s'est complètement délité. Donc, c'est pour ça que finalement, c'était normal que ça s'effondre. Et alors, en 1830, ça a dû aussi ébranler l'église parce qu'ils avaient décidé de faire des grandes réparations. Alors, ils ont ouvert la porte sur la place de l'église, de ce côté. Ils ont trouvé moyen de flanquer deux tours, une de chaque côté, qu'ils ont crénelée alors que ça ne se faisait plus depuis fort longtemps. Bon, je pense quand même que tous ces travaux, ça a dû fragiliser. Puis ils ont commencé à ouvrir une fenêtre pour éclairer le chœur. Le mieux conservé, c'est quand même celui qui est au nord. Et d'ailleurs, il y a quelques fenêtres qui ont été ouvertes, mais on a arrêté, on a dit on ne les touche plus. Il faut qu'il y ait au moins ce vestige qui reste, quoi.
Donc entre des erreurs de construction, des modifications, ça a fragilisé finalement cette église, ce qui fait qu'un jour, elle s'est effondrée.
Alors il n'y avait pas d'argent pour la réparer, encore moins pour la reconstruire. C'est-à-dire qu'avant de la reconstruire, ils ont pensé remonter le mur et remettre les choses en état. Alors, on a fait venir un architecte du Lyon, M. Louvois, qui a visité partout, qui a dit non, il faut finir de la démolir, c'est trop dangereux. Interdiction de rentrer dans le bâtiment. C'est amusant parce que dans sa lettre où il donne la réponse à la municipalité puis au curé, il explique qu'il faut ranger les matériaux quand on aura démoli l'église par catégorie et bien maîtriser tout ça. Enfin, c'est amusant.
Les tours, il y en a une qui a été restaurée en l'an 2000 à peu près, même avant. Elle a été restaurée et à l'intérieur, il y a une source, un point d'eau et qui a été conservé. Vous imaginez un grand rectangle et dessus, ils ont mis une vitre, si bien que cette tour, elle est destinée à des expositions. Et quand on va voir une exposition, on peut marcher sur cette vitre et en se penchant, on voit qu'il y a encore de l'eau. C'est très bien conservé.
Alors, des puits à l'intérieur du castrum, il y en avait quatre. Il y en avait un là, dans cet angle. Il y en avait un dans le petit jardin là derrière cette maison. Il y en avait un sur la place de l'ancienne préfecture. Plus un autre là-bas à l'angle de cette maison.
Oui, dans la tour qui a été restaurée et qui est destinée à recevoir des expositions, on peut voir ce puits en somme. Parce qu'en plus, c'est éclairé, donc c'est magnifique.
Comme cet endroit, moi j'avais envie qu'on puisse faire cette interview ici parce que je connaissais pas très bien Orliena et en arrivant ici, en fait tu te doutes pas forcément de l'extérieur qu'il y a ce cœur comme ça, ce petit trésor intérieur et cette église avec ce cloître aussi qui est accueillant, cette petite placette juste devant avec en contrebas la place qui descend, les maisons en pierre qui finissent le décorum, comme on disait, à la fois intime, on a cette sensation de sécurité. Un peu en cocooning ici. Il y a quelque chose qui fait qu'on est bien. Et donc cette église, pour finir peut-être en quelques mots, a été reconstruite, c'est ça ?
Elle a été reconstruite, il n'y avait pas plus d'argent qu'avant. Donc comment faire ? C'est là qu'ils ont décidé de lancer une souscription. Donc cette église, elle appartient vraiment au village. Elle a été payée entièrement par les souscriptions des habitants. Et le comte de la Croix-Laval, qui avait été maire, même s'il nous a fauché la source, c'est pas grave. Il avait dit qu'il payerait le tiers de ce que donneraient les gens. Ça veut dire qu'il a payé un tiers de l'église quand même. Plus quelques tableaux, des vitraux, plus des trois bricoles. Et ça a été fait en deux temps, parce que les premières souscriptions n'ont permis de faire que la nef, enfin les nefs, puisque maintenant il y a trois nefs. Avant, il n'y en avait qu'une. Et à condition de pouvoir enterrer son oncle et sa tante, dans l'église, dans la chapelle de la Vierge, où le trou a été creusé, il existe, il est, je ne sais pas par là-dessous. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça n'a pas été possible de les enterrer là. Donc on les a enterrés au cimetière, et en remerciement, la commune a fait don du terrain sur lequel il y a le caveau de la famille de l'oncle Robin, de la tante Paradis.
Contrepartie du financement participatif,
Et c'est marqué sur la pierre. On dirait d'ailleurs une espèce de tombe mérovingienne. Et tout le tour, si vous lisez, c'est marqué que la commune avait fait don de l'emplacement pour remercier le comte de la Croix-Laval de ce qu'il avait fait. Enfin, voilà. Donc, une fois que la première partie a été faite, ben, il fallait faire l'autre, mais les souscriptions n'ont pas suffi. Donc, ils ont lancé une seconde souscription et c'est là qu'elle a été terminée. Ils ont fait donc le clocher et le chœur qui n'étaient pas faits encore.
Est-ce que l'endroit est protégé comme un sanctuaire ?
Les dernières municipalités qui sont succédées à partir du moment où Monique y était, je pense qu'il y a eu ce désir de préserver l'endroit. Mais il n'y a aucun classement pour le moment, aucune inscription au monument. Mais simplement, on s'aperçoit quand même de la richesse de posséder cet endroit. Alors il a quand même bien changé. On parlait tout à l'heure de l'impression qu'on peut ressentir ici. Et il y a une cinquantaine d'années, c'était pas tout à fait pareil, c'était moins dégagé, il y avait plein de maisons qui étaient construites, passait la rue Noire derrière. Au fil des années, le milieu s'est un petit peu dégagé et c'est devenu un point de rassemblement où il y a notamment le festival Frissons chaque année, où il se passe des choses, quand il se passe quelque chose. Je crois que tout le monde tient beaucoup maintenant, c'est un endroit vivant quoi, c'est un endroit vivant, les gens s'y rassemblent, on dit bien on est à l'abri, il y a de l'ombre, on peut se reposer. Maintenant je pense que notre village, le centre du village ne risque plus rien même s'il n'a pas de classement quoi. Il y a plein de choses dont Monique a parlé, on n'en finirait jamais. Et je pense qu'on pourrait reparler du curé Romier. Et effectivement, il avait une façon bien à lui de remplir le registre des baptêmes, mariages et décès. Il ajoutait toujours ses petites remarques sur le temps qu'il faisait. Et c'est quelqu'un qui a su bien se débrouiller parce que le curé Romier, au moment de la Révolution, bah, il fallait choisir où on prêtait serment à la Révolution ou bien on ne prêtait pas serment, on était un prêtre réfractaire. Avant, il remplissait les registres par Après, il a rempli les registres municipaux, il signait, il a même eu des postes. Et c'était quelqu'un, un bon vivant, enfin, c'est un personnage. Et quand on évoque également les batailles, il y avait sans doute à se protéger des invasions, ça c'est sûr, mais il y avait aussi des luttes avec les villages voisins. On retrouve dans les archives plein de choses dont il s'est trop long de parler, mais il y a eu des moments, des histoires entre Orléans et le prieuré de Talluyet. Il y a même eu des morts, il y a eu des sanctions après, des jugements qui ont été rendus. Payer quelqu'un pour aller faire un pèlerinage à sa place, je ne sais plus si c'est à Compostelle ou ailleurs, pour rattraper un petit peu les exactions qu'il avait fait à l'égard des gens d'Orléans. Enfin, il s'en est passé plein. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à raconter.
On sent en effet que les curés à cette époque jouaient ce rôle de liant. Vous savez que nous, c'est un petit peu notre esprit là dans cette logique de série de podcasts, c'est d'aller chercher ce qui relie les citoyens dans leur propre commune, mais aussi ce qui relie les citoyens entre les communes et tout particulièrement dans cette communauté de communes du pays mornantais. Alors, à votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce qui crée ce lien aujourd'hui ? Qu'est-ce qui pourrait créer ce lien ?
C'est difficile à dire, étant donné que le village a beaucoup changé ces dernières années. Il faut déjà que les gens arrivent à s'intégrer et à se supporter les uns les autres. Je ne pense pas qu'à Orléans, il y ait de gros problèmes. On ne fait pas tuer les coqs, ni... S'ils ont fait arrêter des cloches la nuit, je crois, mais enfin, je ne sais pas. Ces cloches que je n'entends plus et que je regrette beaucoup...
Le matin, on entend l'Angélus.
Non, moi, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Moi, j'entends plus les cloches.
Si, si.
Et je suis malheureuse. Heureusement, je me les ai enregistrées, donc je peux les écouter de temps en temps à la maison.
C'est bon, ça.
Disons que Monique a raison. Moi, quand j'étais gamin, il y avait 700-800 habitants à Orléans. Il y en a plus de 2500 maintenant, avec beaucoup de nouveaux arrivants. Et c'est vrai que c'est un petit peu un problème. Il y avait déjà quelques années, dans le premier bulletin municipal qui a été publié, c'était en 77, je crois, qui était sur feuille renéotypée. Enfin bref, le maire, dans son mot, disait aux anciens habitants d'Orléans de bien accueillir les nouveaux, de ne pas les considérer comme des étrangers, etc. On sent qu'il y a ce problème. Il fallait longtemps, même moi qui suis arrivé en 52, il fallait un certain temps pour être considéré comme habitant d'Orléans. Maintenant, je pense que les gens sont quand même, même les gens qui sont arrivés récemment, sont attachés au village. Alors après, il faut trouver des occasions. Alors je pense que beaucoup d'occasions se font autour des écoles. Et les nouveaux se rassemblent autour des écoles et des activités de l'école. Alors simplement, les anciens... Ils sont moins puisqu'ils n'ont plus leurs enfants à l'école. Alors il y a toutes les associations, il y a beaucoup d'associations. Et disons, ce qui serait bien et ce vers quoi je pense la commune va essayer de tendre dans les années qui viennent, c'est que chaque association ne fonctionne pas pour elles-mêmes, mais un petit peu que toutes les associations arrivent à faire des choses ensemble. Ça se fait parfois, mais c'est difficile. Essayer de mutualiser les activités, les moyens, les bénévoles, etc. pour que les gens se connaissent et que chaque association ne fonctionne pas finalement juste pour ses adhérents. Ça sera pas facile, mais je crois que c'est possible. Alors on avait envie pour ça qu'il y ait un lieu. Il y a des lieux qui nous auraient intéressés, mais c'est pas facile. On ne sait pas. L'Hôtel des Eaux en particulier, dont on parlait tout à l'heure. Mais bon, ça reste des projets vagues qui, pour le moment, on peut pas dire, il n'y a pas de choses très, très concrètes. Mais l'Hôtel des Eaux, ça a été un lieu de vie. On en parlait tout à l'heure. On s'est arrêté à un moment après la source, et plus pour les eaux ferrugineuses, les gens du village s'y retrouvaient pour les fêtes. On y dansait, et il y a eu des boulistes. Enfin, ça s'est arrêté, ça, dans les années 70-80. Il y a des vieilles cartes postales avec des photos, mais il y a foule à l'Hôtel des Eaux le week-end, quoi. Donc, c'était vraiment un lieu de vie. Donc, si on arrivait à trouver un endroit où on puisse, justement, rassembler les gens dans une maison des associations, que les gens soient pas séparés, ça pourrait être intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'on est dans un de ces villages où les gens travaillent beaucoup à l'extérieur. Les jeunes couples ont encore des enfants en bas âge, n'ont pas beaucoup de temps. Mais, comme disait Monique, je trouve que... il se passe pas mal de choses. L'année qui vient de s'écouler est un peu particulière, bien sûr, elle l'a été pour tout le monde, mais il se passe pas mal de choses, il y a beaucoup de vie, et les gens, quand même, arrivent à se connaître, s'ils le veulent.
S'ils le veulent, et oui, et puis c'est vrai qu'il y a quand même un mouvement où les gens ont envie de s'ancrer, même s'ils sont pas forcément là depuis longtemps. Le phénomène ville-dortoir commence à être un peu derrière nous quand même, parce que voilà, les gens ils veulent faire travailler les commerçants locaux. J'ai cette sensation quand même que ça infuse maintenant dans toutes les communes, même près de Lyon.
Pour aller dans ce sens, on a un compte Facebook à la mairie, et régulièrement, tous les mois à peu près, je publie une vieille carte postale avec une vieille photo d'Orléana et deux mots à côté. Eh bien, c'est chaque fois la publication qui a le plus de likes. Ce qui prouve que les gens qui sont justement entrés un peu sur Facebook, alors je sais bien que pour les plus jeunes, Facebook c'est maintenant dépassé, mais les gens qui suivent justement ça, ben voilà, ça a du succès, ça leur plaît qu'on leur montre à quoi ressemblait le village avant, qu'on leur parle du tramway et des sept chemins, qu'on leur parle de la colline du Boulard qui était toute cultivée autrefois, alors que maintenant ce sont des bois. Donc oui, on sent cette envie d'un ancrage local chez beaucoup de gens. Il n'y a pas cette indifférence au village. Le village n'est pas qu'un dortoir, même pour les nouveaux arrivants, je pense.
Josette, est-ce que tu veux aussi parler de ton Orléana d'aujourd'hui ?
Je trouve que ça a bien changé par rapport à ce que j'ai connu. Parce que lorsque nous sommes arrivés, il y avait 917 habitants. Et maintenant, 2500. Je trouve que c'est plus difficile de discuter avec les gens qu'avant. Avant, on rencontrait des personnes âgées, elles discutaient facilement, elles nous racontaient un peu l'histoire du village, alors que maintenant, la population a vraiment changé.
Comme dit Jean-Michel, c'est vrai que l'école fait partie des vecteurs pour pouvoir retisser du lien. Et puis, il y a tous les producteurs aussi, hein, le gros développement aussi de la production locale. En tout cas, il y a un truc qui se passe quand même. Hein. On sent depuis quelques temps, je trouve, les gens se réinvestissent un peu dans les associations, vont aux portes ouvertes.
De toute façon, l'école, c'est primordial. Parce que c'est là où on rencontre des mamans, où on fait connaissance, où on discute. On va un petit peu plus loin, après on fait partie d'associations et le cercle s'agrandit et c'est comme ça qu'on s'intègre dans le village.
Je pense aussi à quelque chose, il faut qu'il y ait des gens moteurs dans ces trucs-là. À l'époque où j'étais au conseil, on s'était amusé à deux ou trois à comparer les lotissements. Et on s'est rendu compte, dans certains lotissements, tous les gens se sont intégrés, ils sont rentrés dans telle ou telle association. Et il y a des lotissements où on n'a jamais vu qui que ce soit dans le village. Je pense quand même qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu moteur et qui fédère les autres pour les aider à s'intégrer, quoi.
Mais c'est vrai que moi, par exemple, qui suis arrivé dans mon village de l'Est lyonnais, Genasse, à 15 ans, et il se trouve qu'en plus, je n'allais pas au lycée, enfin au collège là-bas, je n'ai pas vécu toute cette phase d'école. Et c'était pas évident. J'ai pris conscience par la suite que mon intégration n'avait pas été simple. Parce que autant c'est naturel au travers de l'école, autant par rapport aux associations, il faut y aller, il faut être acteur, c'est pas automatique. Et donc, c'est très intéressant de s'appuyer sur l'école. Et par rapport aux nouveaux arrivants, en effet, peut-être, comme tu disais, par une maison des associations, un lieu convivial, essayer d'intégrer au vol les gens qui arrivent, tu vois, un peu plus tard, pour faire corps, pour faire commune, quoi. En discutant avec vous, je prends conscience de ça.
Mais d'autre part, il faut se mettre aussi à la place des couples qui travaillent tous les deux, qui, lorsqu'ils rentrent le soir, n'ont pas bien envie de ressortir, ont autre chose à faire et ne vont pas forcément à la sortie des écoles. Voilà, ils peuvent pas s'intégrer aussi bien qu'une maman qui ne travaille pas, qui accompagne ses enfants à l'école.
Oui, ce qu'il faut pour ces couples, pour ces familles-là, c'est que le week-end ou les moments où ils ont du temps, ils s'aperçoivent qu'il y a plein de choses à faire sur la commune. Moi, récemment, là, il a été organisé une après-midi jeux, les orgues, mais jeux un peu modernes, avec l'aide du service enfance de la COPAMO. 65 enfants, plus de 65 enfants de 12 à 17, 18 ans sont venus autour de l'héliotrope et ont passé une après-midi absolument formidable. Donc au lieu d'aller chercher, de se dire, tiens, où est-ce qu'il y a un parc d'attractions, ils disent, mais tiens, à Orléana, des fois, avec le service jeune de la COPAMO, on peut faire des choses. Et si on montre qu'on peut faire des choses sur place, et si on les propose à des moments où les gens sont disponibles, justement, pas forcément toujours le soir, je crois que tu as raison, eh bien, ce sont des occasions de rencontre. Vous parlez tout à l'heure tous les deux des producteurs locaux, je pense que c'est énorme. Le petit marché local, s'il peut s'étoffer, d'autres producteurs qui vendent dans leur propre ferme, par exemple les brasseries locales, on en a une à Orléana, des choses comme ça. Et ce sont des points de rencontre. Alors, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui se rencontrent tout de suite. 2500, on ne peut pas tous se rencontrer en même temps. Mais je pense qu'ils se tissent des liens quand même à travers tout ça, et que des personnes différentes se rencontrent.
Merci vraiment pour ces paroles passionnées, quelques petits débats de temps en temps. Hein, vous n'étiez pas tous forcément d'accord. On invite évidemment tous les auditeurs à venir découvrir Orléana, passer un bon moment. Il y a un resto, il y a une auberge, il y a plein de choses à voir. Il y a des producteurs locaux, il y a une brasserie, il y a des commerces, ça vit. Donc merci Monique, Jean-Michel et Josette pour votre accueil. C'est un vrai plaisir de découvrir toute cette histoire d'Orléana. Et on invite aussi évidemment les auditeurs à peut-être aller découvrir d'autres choses sur les sites internet ou vous contacter peut-être tout simplement directement contacter la mairie pour avoir à aller un peu plus loin ou l'office de tourisme pour aussi faire les visites. Et nous, notre petite tradition pour finir ces petites causeries, c'est qu'en fait, on vous laisse le mot de la fin.
Eh bien, moi, j'inciterai beaucoup de personnes à venir visiter Orléana. Il y fait bon vivre et puis il y a beaucoup de chemins pour se promener à pied. Moi, j'invite beaucoup de personnes à venir voir notre village qui est très agréable.
Pour terminer, je voudrais justement peut-être ne pas parler que d'Orléana, parce qu'on est sur le territoire d'Orléana, on est attaché à Orléana, on voit la richesse d'Orléana, et donc c'est bien que des gens d'autres villages viennent découvrir Orléana, mais je pense que on appartient à un territoire maintenant. Bon, alors c'est le territoire de la COPAMO, mais COPAMO, ça fait toujours un nom. Moi, j'aime mieux dire la communauté de communes du Pays Mornantais ou les coteaux du Lyonnais, c'est plus parlant, et que maintenant, on se met à vivre aussi à cette échelle-là, quoi. Il n'y a pas que le village, il y a le village, mais il y a tout ce qui se passe autour. Donc cette curiosité qu'on a pour notre propre village, je crois qu'il faut qu'on l'ait maintenant à l'échelle de ce territoire un petit peu plus vaste, quoi.
J'ai été nommée Orléana, donc je suis arrivée en 57. Et je vous dirais franchement que j'avais qu'une envie, c'est de partir vite, vite, vite de ce village. Et un de mes collègues me disait, vous allez faire votre carrière. Oh, je dis sûrement pas, j'attends que de partir. Et j'avais, bien sûr, à l'époque, la classe maternelle avec 52 élèves, aucun matériel, dans un local où il n'y avait même pas les plâtres faits, c'était des moellons entassés. L'été, on mourait de chaud et l'hiver, on mourait de froid. Quand on arrivait à 6 l'hiver, on était content. Et j'avais même pas une chaise par élève, c'est vous dire. Malheureusement, on était soumis à la règle des 3 ans. Donc, si on n'était pas parti au bout d'un an, il fallait faire la deuxième et la troisième année. Et là, petit à petit, je me suis familiarisée, on dira. Et puis, beaucoup plus tard, avec mes élèves, on a commencé à faire une histoire d'Orléana, parce que je pense que si on veut vraiment enseigner l'histoire, il faut commencer par celle du village et l'intégrer à celle du pays. Et j'ai pris le virus. De temps en temps, le virus s'endort, mais c'est fait pour la vie. J'ai des crises souvent où je repars dans les recherches parce que je ne peux plus m'en passer.
Cette causerie a été réalisée par la Compagnie des Histoires en Musique, en partenariat avec la commune d'Orléana et la communauté de communes du Pays Mornantais.